À voix nue. Cette semaine, de lundi à vendredi, Zoé Sfez rencontre Jérôme Clément. Ce soir, écrire pour échapper au temps de l'action.
Bonjour Jérôme Clément.
Bonjour.
On se retrouve pour ce dernier entretien.
Et hélas.
Déjà, hélas, après avoir parlé d'Arte hier, on va parler aussi de l'écrivain que vous êtes. Parce que vous avez écrit une dizaine de livres, souvent des essais, mais souvent des essais très personnels en réalité, à l'exception peut-être du choix d'Arte et de l'urgence culturelle. Ce sont des livres qui délivrent une certaine vision du monde, mais où vous vous racontez aussi beaucoup. À quel moment elle est née cette nécessité d'écrire? Je crois que votre premier livre s'appelle « Un homme en quête de vertu » et que vous l'écrivez d'ailleurs, peu ou prou, au moment où vous êtes dans la création d'Arte. Pourquoi vous avez eu envie de l'écrire, ce livre, et quel était le projet? Qu'est-ce que ça a représenté de se plonger dans ce travail d'écriture?
En fait, je ne crois pas que c'est grand-chose à voir avec la création d'Arte. C'est plutôt lié à mon évolution personnelle. Bon, d'abord, il faut savoir que on en a parlé à la première émission, mais ma sœur est écrivain, philosophe, elle a écrit énormément, c'est son métier. Donc, l'écriture était pour moi quelque chose qui était un peu familier, quoi. Je connais depuis pas mal d'écrivains, donc j'avais pas d'appréhension particulière. Et voilà. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai écrit? Je pense que je sortais d'une crise personnelle, un peu liée à la découverte de mon histoire. Enfin, des crises comme on en traverse tous. Dans mon cas, c'était venu vers la quarantaine, avec des interrogations métaphysiques et puis aussi peut-être toutes les tensions que j'avais pas exprimées, que j'avais subies sans doute pendant mon enfance et qui n'étaient pas si claires. Et je pense que j'ai eu besoin de passer à l'écriture, de passer à cette phase-là. Aussi peut-être parce qu'il y avait un désenchantement aussi sur le plan politique par rapport à ce qu'on disait dans la deuxième émission, cette fois sur l'engagement, sur l'idéal. Et je trouvais que la réalité était plus complexe. Donc j'avais besoin de mettre tout ça sur le papier. J'y étais très encouragé et beaucoup aidé par quelqu'un qui était éditeur à temps plein à l'époque, qui est Bernard-Henri Lévy, qui a travaillé d'ailleurs avec moi ensuite sur Arte, puisqu'il a remplacé Georges Duby, et qui m'a beaucoup, beaucoup poussé à... Dans les discussions qu'on avait, on a fait beaucoup de voyages ensemble, beaucoup de choses ensemble, et il a été formidable dans la mesure où il m'a donné le courage et la capacité peut-être d'écrire. Donc voilà pourquoi je me suis lancé là-dedans, sans trop savoir où j'allais, mais avec l'envie de dire des choses qui me tenaient à cœur. Alors, vous avez dit une chose aussi sur des choses assez personnelles. Oui, parce que je pense que la seule légitimité qu'on a, c'est soi-même. C'est-à-dire, on parle de son histoire, on parle de sa vie, on parle de ses sentiments, on parle de choses qu'on a vécues et qui vous donnent la légitimité de vous adresser à autrui. Et aussi parce que j'ai la ferme conviction que quand on écrit... qu'on a l'audace incroyable de donner à lire des choses qui vous passent par la tête, il faut mettre sa peau en jeu, quoi. Il faut y aller. Donc il faut dire, bah voilà. Et le lecteur le sent.
Vous écriviez des journaux avant? Est-ce que vous aviez un rapport déjà intime à l'écriture? Évidemment, vous parlez de votre sœur. Vous parlez de Georges Duby aussi, qui, je crois, vous faisait des retours sur ce que vous écriviez.
Oui, c'est vrai.
À cette époque-là. Vous écriviez comment? À quel moment? Encore aujourd'hui? Vous vous mettiez à une table? Est-ce que vous réécriviez beaucoup? Est-ce que vous réécrivez beaucoup?
J'avais écrit des articles de journaux, en fait. La première fois que j'ai écrit un article, c'était en revenant des États-Unis. À l'époque, j'avais rencontré à New York les leaders du Black Power, qui s'appelaient Rap Brown, Carmichael, enfin des gens assez sulfureux à Harlem. J'étais mort de trouille. En rentrant, j'avais écrit un article pour Combat, qui était dirigé par Philippe Tesson. Il avait trouvé ça bien, donc il l'a publié. Donc j'avais écrit déjà des choses. Et puis quand on s'occupait de l'atelier culturel, dans les années 76, avec Bernard Fèvre-Darcier, Catherine Tasca, Cueco, ces gens-là, j'ai écrit des textes. Donc de certaine façon, j'avais écrit déjà des tas de textes. Mais pas des choses personnelles, sous forme de livres. Mais l'écriture ne m'était pas étrangère. Et puis je prenais des notes dans mes petits carnets aussi. Voilà, évidemment. Et donc un jour... on se dit, bah, pourquoi pas un livre? Puis ça vient comme ça, un peu des circonstances et un désir profond qui d'un seul coup surgit. Mais ça m'a aidé à surmonter les problèmes que je traversais.
Vous avez écrit un autre livre qui est assez original, qui est un livre qui est intitulé « Lettres à Bérégovoy ». Pierre Bérégovoy, dont vous dites d'ailleurs, en entrée dans ce livre, que vous le connaissiez, évidemment, parce que vous avez fait partie de cette même vague, vous avez travaillé ensemble, vous appartenez au même corps politique, on va dire, mais vous ne le connaissiez pas si bien.
Non.
Qu'est-ce qui s'est passé avec ce livre?
Un suicide de Premier ministre, c'est un événement qui frappe. Et donc, ça m'a beaucoup frappé, comme tout le monde, et j'étais vraiment très, très blessé par cet acte que je trouvais complètement fou, quoi, injuste. Voilà, j'avais de la compassion et de l'amitié pour lui. Et puis, il y a des choses, évidemment, que j'ai pas dites dans ce livre, mais qui expliquent aussi les choses, c'est que j'avais eu à subir l'année d'avant un autre suicide, qui était le suicide du frère jumeau de ma femme, et ça avait été un événement terrible, évidemment. Donc, j'étais confronté 2 ans de suite à cette question du suicide. Et quand Bérégovoy est mort, ça m'a donné envie de raconter, de parler de ça, de raconter aussi comment cet événement était vécu. Et je l'ai fait sous forme très curieuse, je sais pas pourquoi c'est venu comme ça, sous forme de lettre. C'est-à-dire qu'il s'est suicidé le 1er mai 93, et je lui ai écrit une lettre par jour, fictive, bien sûr, pendant un mois. Et puis voilà, donc j'ai écrit le livre en un mois, sous forme d'une lettre quotidienne, où je racontais un peu ce qui se passait. Et c'est aussi une réflexion sur le suicide, évidemment.
Et c'est une réflexion sur le pouvoir aussi.
Et sur le pouvoir, bah oui, parce que quand même, un Premier ministre qui se suicide... Donc j'ai observé, j'ai regardé ce qui se passait autour de moi, j'ai regardé comment ça se passait dans toutes les sphères de la société, comment l'événement pouvait être digéré, magnifié, compris, pas compris. Un suicide, c'est une interrogation sur ce qui se passe, quoi. C'est une interpellation, c'est une question angoissante qui est posée aux autres. On s'est dit, mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il nous a quittés? Pourquoi il nous a fait ça? Donc j'ai voulu répondre à cette interpellation et essayer de comprendre. De comprendre ce qu'il avait voulu faire et comment la société réagissait à cet acte très insolite et dramatique. Et voilà, c'est une réponse finalement à la question que posait Pierre Bérégovoy. Je me suicide, donc je vous dis, je peux plus vivre avec vous. C'est terrible d'entendre ça de la part de quelqu'un. Je peux plus vivre avec vous. Je m'en vais. Et donc, ça m'a intéressé de répondre.
Ça vous avait aidé, d'ailleurs? Est-ce que ça vous a apporté choses à vous aussi, sur votre propre relation à la chose politique et à cette question de suicide?
L'écriture aide toujours. L'écriture, elle aide à comprendre, elle aide à vivre, elle aide à surmonter les difficultés, elle aide à réfléchir, quoi, surtout. Et ça, je suis là-dessus un grand adepte de Montaigne. Du travail d'écriture qu'il a fait dans sa tour et de raconter, voilà, pour moi Montaigne est un modèle absolu. Il nous parle de lui, mais en nous parlant de lui, il parle du monde. Et si les essais de Montaigne ont eu cette valeur et cette longévité, c'est justement parce que en parlant de lui, il parle du monde. Donc ça m'a beaucoup intéressé, comme Proust d'ailleurs, pour d'autres raisons, parce que je pense que ce sont des auteurs qui oblige à regarder ce qui se passe autour à partir de soi-même. Et cette écriture qui vient ensuite, elle apporte un autre temps. Moi, j'ai toujours été partagé entre le temps de l'action, qui est immédiat, des réactions, voilà, il faut agir, réagir.
Et vous-même avez beaucoup dans votre vie agi et réagi, voilà. Parfois sur des coups de tête d'ailleurs, on l'a vu.
Oui, absolument, parfois pas toujours à bon escient, mais enfin, c'est l'action, c'est ça. Et j'ai besoin d'un autre temps. Et le temps de l'écriture est complètement différent. On rentre dans une relation au temps qui vous appartient à vous, qui est dans votre rythme, qui est dans une pensée qui se met en œuvre et qu'on maîtrise en formant des signes sur une feuille de papier. Pour moi, l'écriture, c'est un moment magique où on échappe au temps de l'action pour rentrer dans celui de la réflexion et de la méditation et qui aide à penser sa vie. Ce qui est finalement le but de l'écriture et de la philosophie, c'est de penser sa vie. Si j'écris, c'est pas du tout par prétention d'être un grand écrivain, je pense pas du tout que je le sois, mais c'est d'être un homme d'action qui réfléchit et qui essaye d'écrire pour comprendre aussi ce qu'il fait. Et je pense qu'il y a pour moi une très bonne dynamique entre les deux.
Vous avez écrit ce livre aussi, évidemment, on en a parlé en introduction sur votre enfance. Plus tard, tu comprendras, paru la première fois en 2005 aux éditions Grasset, qui a ensuite été adapté à l'écran avec Jeanne Moreau dans le rôle de votre mère. Mais ce livre, qui je crois a bien marché, ce livre-là, il a présenté une toute autre image de vous, justement.
Ah bah oui.
Le public connaissait l'image de Jérôme Clément, président d'Arte. Est-ce que ça a été difficile ou au contraire gratifiant de dévoiler une autre partie de vous comme ça?
Je pense que j'avais pas le choix, parce que je, comme on l'a dit dans la première émission, j'avais vécu dans le secret, dans le silence et dans l'absence, et ça pèse beaucoup sur la formation d'un jeune homme, ou d'un garçon, ou d'un enfant. Et devenu adulte, j'avais besoin de sortir de ça, du secret. Et le fait d'exposer publiquement mon histoire, les origines juives, la déportation, la mort de mes grands-parents, même aussi par rapport à des questions fondamentales, comme celle de l'immigration, par rapport à la réussite dans un pays comme la France. Ça explique beaucoup de mes choix politiques, évidemment. Et je trouvais qu'il fallait le faire. Donc ça a évidemment surpris beaucoup de gens, de mes amis et d'autres. Mais ça a été bien accueilli, parce que je pense que ça a été compris comme une démarche sincère, ce qu'elle était. Et moi, ça m'a fait du bien de sortir du silence et du secret. Et je ne pouvais pas le faire autrement qu'en écrivant un livre.
Vous avez écrit un autre livre, qui est un livre qui, encore aujourd'hui, est réédité, qui parfois figure dans les manuels scolaires, qui est un livre qui s'appelle « La culture expliquée à ma fille ». C'est un petit essai. Et vous me l'avez dit, il marche plutôt très bien, ce livre. Et c'est un livre où vous vous mettez en scène en train de dialoguer avec votre fille, Judith, qui, je crois, elle est la plus jeune. Et vous abordez à la fois la place de la culture dans votre vie et aussi les artistes, les arts majeurs qui vous ont le plus marqué, ceux qui vous ont fait du bien. Pourquoi vous l'avez écrit, ce livre ?
C'était une commande. En fait, il y avait cette petite collection et Tara Benjelloun avait fait Le racisme expliqué à ma fille, qui avait un succès énorme. Et Le Seuil m'avait appelé un jour en me disant « Est-ce que vous voudriez pas faire la culture expliquée à ma fille ?» J'ai dit « Banco, oui, c'est, pourquoi pas, c'est rigolo. » Donc je l'ai fait vraiment comme ça, c'est-à-dire avec ma fille un été où on passait nos vacances à Osgore. Et tous les jours, on se mettait autour de la table et puis on bavardait. Et puis j'ai tout enregistré, puis j'ai écrit ensuite ce petit livre. C'est venu assez naturellement, finalement. Je lui dis « Bon, alors, ça t'intéresse de parler de la culture ?» Elle me dit « Oui, enfin, je sais pas trop, on est en vacances. » Alors je lui dis « Oui, mais on va parler de nous pour commencer. » De nous, mais pourquoi tu penses que c'est important? Je dis, la culture, c'est aussi la culture familiale. Et tu vois, tu te poses la question de savoir ce que c'est que la culture, mais tes origines, tout ça. Donc, on est parti tout de suite après sur les questions d'identité. Et puis, on était à Osgore, on avait été à Bilbao. Je les avais emmenés voir la fondation à Bilbao. Ça posait plein de questions. Est-ce que tu aimes le bâtiment? Est-ce que tu trouves ça beau? Ah oui, mais beau, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le beau? Et puis, qu'est-ce que l'art? Qu'est-ce qu'une œuvre d'art? Enfin, c'est des questions, après, très fondamentales. Alors, elle me dit, mais moi, je sais pas, le beau... ah oui, qu'est-ce qui définit le beau? Alors, dans une discussion là-dessus. Et finalement, de fil en aiguille, à partir même... et Picasso, tout le monde dit que c'est beau, me dit-elle, et moi, je trouve ça affreux. Je dis, ah bon, pourquoi tu trouves ça affreux? Parce que, voilà, donc on rentre dans un débat. Et finalement, le livre, c'est ça. C'est toutes ces questions qu'on pourrait avoir en essayant de partir d'un sujet et d'arriver à un autre pour embrasser tout le champ de la culture. Et en fait, il a effectivement beaucoup, beaucoup de succès, puisqu'il est dans les manuels et qu'il est réédité, et que tous les... parce qu'il répond sous forme d'un dialogue entre un père et sa fille à des questions simples. Qu'est-ce que l'art? Pourquoi t'aimes pas l'art moderne? Et donc, ça m'a beaucoup amusé, ça m'a bien intéressé de faire ça. Mais j'aime bien les commandes, c'est pas... C'est utile, c'est comme les femmes et l'amour, quoi.
Ce livre, qui est une transcription des entretiens que vous aviez réalisés pour France Culture, voilà. Avec des femmes, pour comprendre quelle place avait l'amour et puis qu'est-ce que c'était d'être une femme.
Voilà, formidable pour un homme, j'ai une chance inouïe, quoi, d'aller voir des femmes en leur demandant de parler d'amour. C'était génial. C'est Laura Adler qui m'avait proposé ça. Enfin, elle m'avait proposé de faire des émissions là-dessus et c'est moi qui ai eu l'idée de faire les femmes et l'amour et je ne le regrette pas du tout, ça a été génial.
Vous avez appris des choses, réellement.
Ah oui.
Vous
oui.
Vous êtes marié depuis très longtemps avec Marie-Christine, votre épouse. Vous avez eu 4 enfants ensemble.
Oui.
Mais vous ne cessez de dire, d'ailleurs, dans vos livres, de manière assez récurrente, que les femmes, c'est une chose importante.
Ah bah oui, bah évidemment. Bien sûr, parce que le regard féminin, la présence féminine, c'est autre chose. Ça pousse toujours à l'homme. Et inversement, la plupart du temps, une façon d'être, une façon d'appréhender le monde qui est pas la même. Quoi. Donc... moi, j'ai toujours été bien dans la compagnie des femmes, dont la sensibilité, l'approche du monde est différente, et en même temps, je trouve très intéressante, très originale. Donc j'ai, on parlait des actrices hier, mais j'ai beaucoup de femmes amies, écrivaines, je sais pas comment il faut dire, enfin, qui sont aussi dans cette relation qui est un peu différente, et ça me plaît, donc ça m'intéresse. quand j'avais fait ces émissions sur les femmes et l'amour, c'était passionnant parce qu'on posait des questions fondamentales, la rencontre, la séduction, la séparation, la passion, enfin les quatre ou cinq étapes qui jalonnent en général la vie amoureuse. Et à chaque fois, j'avais des réponses différentes. Et ce qui m'avait beaucoup surpris, d'ailleurs, c'est qu'au fond, je m'attendais... Il y avait des femmes que je connaissais, d'autres que je ne connaissais pas, à qui j'avais proposé ça, mais que j'avais envie de connaître. Et toutes ont accepté. J'ai eu aucune difficulté. Je crois que ça aurait été différent avec les hommes, mais elles étaient très contentes, en fait, de parler de ces sujets. Et j'ai eu des rencontres très émouvantes, très, très fortes, parce que ça fait écho, évidemment, à sa vie personnelle et à ce qui se passe dans ces moments-là. Je sais pas, quand Edmond Charleroux me parlait de Gaston Defer qui était mort et qu'elle vivait toujours avec lui, donc c'était ses souvenirs de sa vie amoureuse, c'était magnifique. Jeanne Moreau, qui a eu beaucoup d'amants et beaucoup une vie amoureuse riche, mais en fait il y en avait vraiment un seul qui avait compté, quoi, c'était Louis Malle. Et quand elle m'a parlé de Louis Malle, on voyait le regard se troubler et les yeux s'embuer. Et puis je pourrais vous en parler de beaucoup d'autres, mais je ne veux pas le faire par discrétion. Mais c'était très émouvant, très touchant de parler de ces sujets intimes, mais d'une façon très, très amicale, quoi, sans qu'il y ait d'autre enjeu que de se comprendre et d'échanger sur cet aspect fondamental de la vie.
L'amour, c'est un aspect fondamental dans la vie. La culture, on l'a dit. Pour revenir à ce livre, on n'a pas parlé de votre rapport à la musique, qui est quand même quelque chose d'important dans votre vie. Ici, dans ce salon, il y a un piano. On oublie peut-être que vous avez été le créateur de la chaîne Mezzo.
Ah oui, c'est vrai.
Et que vous avez aussi dirigé le théâtre du Châtelet.
Oui, c'est vrai.
Donc
ça
a été une partie importante de votre vie, la musique.
Je peux pas vivre sans musique. Moi, j'ai besoin d'écouter de la musique tous les jours. C'est vrai que j'avais appris à jouer du piano quand j'étais petit. Je joue malheureusement plus beaucoup aujourd'hui. Par manque de temps, mais j'aime la compagnie des musiciens, mais j'aime la musique, j'en écoute énormément. Je vais au concert et ça m'intéresse beaucoup, aller aux répétitions. Et quand j'étais à Arte, j'ai eu l'occasion d'être avec énormément de musiciens de grand renom et de faire des films sur... je sais pas, le film qu'on avait fait sur Richter, par exemple, était magnifique. Tout ce que j'ai fait avec Barenboim était aussi extraordinaire. Souvent, pour moi, c'est indissociable de rencontres. C'est-à-dire que j'aime la musique, mais j'aime aussi le faire en situation, en rencontrant des musiciens ou des chefs d'orchestre que j'ai eu la chance de pouvoir connaître et de voir avec qui j'ai pu travailler. J'ai besoin de la musique, ça m'apaise la musique. Je rentre dans un autre univers. On parlait de l'écriture, le rapport à l'écriture, ça me donne une paix intérieure et un rythme de temps différent. Quand j'écoute de la musique, je suis dans un univers poétique où je m'évade pour retrouver une harmonie que j'ai pas sans ça. J'avais l'année dernière fait des émissions avec Anne Kefelek, qui est une grande pianiste. Parce que j'ai beaucoup écouté de musique, sa façon de jouer, d'une délicatesse et d'une attention très très subtile, m'a toujours énormément touché. Et le livre touche à l'intellect, alors que la musique touche à l'émotion. Et pour moi, j'ai besoin des deux. Donc c'est très complémentaire. Mais j'aurais du mal à me passer d'une journée sans musique. Je pense pas que j'y arriverais.
Aujourd'hui, par exemple, vous avez écouté de la musique ?
Alors aujourd'hui, non, j'ai pas eu le temps. Parce que ce matin, j'ai été pris et voilà, notre émission nous prend aussi. Donc j'ai pas eu le temps, mais je le ferai sûrement ce soir.
Qu'est-ce que vous écouterez ce soir ? Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez une discothèque ici ?
Alors j'écoute souvent France Musique. Donc j'écoute aussi ce qui vient à la radio. Je suis un auditeur fervent de Radio France et de France Musique. Et parfois, quand ça ne me plaît pas, j'écoute souvent du Bach. Parce que sa régularité, l'organisation du temps et de l'espace me plaît beaucoup. Et j'écoute aussi beaucoup de Schubert. Enfin, en tout cas, ce sont deux des auteurs que j'écoute avec beaucoup d'attention. Il peut m'arriver d'écouter du jazz aussi. J'ai écouté l'autre soir à France Musique Chet Baker. J'ai trouvé ça formidable. J'ai passé une heure magnifique.
Et puis, il y a la peinture quand même. Parce que, on l'a dit, vous avez été aussi... vous avez dirigé la maison de vente Piazza. Et puis là, on est chez vous. Une maison où l'art est très présent. Il y a beaucoup de tableaux, il y a beaucoup même de sculptures, il y a des petits poutis, des anges. Et là, juste derrière vous, une œuvre d'Ernest Pignon-Ernest. Est-ce que vous pouvez me la décrire ? Vous pouvez me raconter l'histoire peut-être d'un ou deux de ces tableaux qui sont simplement dans votre salle à manger ?
Oui, bien sûr. C'est vrai que la peinture Elle me procure des impressions différentes. Elle m'apaise aussi beaucoup. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé, quand j'étais à Arte, juste une petite anecdote, je voyageais beaucoup, comme je le disais, à travers toute l'Europe. Chaque fois que j'arrivais dans une ville, j'allais au musée. Et parfois, je laissais tomber des réunions pour passer une heure à visiter le musée et à rester tranquille dans les salles. J'emmenais un collaborateur et on bavardait, mais en regardant les toiles. Ça me fait du bien. Puis j'ai l'impression d'apprendre. J'aime bien apprendre. Alors cette toile d'Ernest Pignon-Ernest, c'est une commande en fait que je lui ai passée, c'est un ami. J'avais acheté un jour un numéro original de J'accuse de Zola, texte ô combien important, et je lui ai demandé s'il pouvait me faire un Zola dessus. Donc il a fait un pastel de Zola qu'il a dessiné sur une œuvre originale, enfin sur le J'accuse original. Donc voilà, j'y tiens beaucoup parce que c'est bien tout un symbole. Et puis Ernest a beaucoup de talent et voilà. Donc j'ai beaucoup d'œuvres de lui, d'Artaud, de Rubens, enfin de tas de choses. Et on discute beaucoup ensemble. Et j'adore ce qu'il fait. Je suis très sensible au dessin. J'aime beaucoup le dessin. J'ai des tableaux de Cueco aussi, qui était un de ses très grands amis. J'aimais beaucoup Cueco, avec qui on faisait des émissions à la radio, des papous dans la tête. On s'amusait énormément. Il avait beaucoup d'esprit, il était très drôle. C'était à la fois un écrivain et un peintre qui a beaucoup de talent. Donc j'ai des œuvres de lui chez moi et ça me touche évidemment beaucoup.
Vous avez écrit un livre qui s'appelle L'urgence culturelle, qui était un livre, alors là pour le coup, un vrai essai. Un essai relativement engagé. Vous étiez assez critique, fâché. Brutalement fâché, critique, ouais. Et fâché avec le rapport qu'entretiennent aujourd'hui les hommes politiques de droite et de gauche avec la culture. Pour faire le point sur ce parcours, qui est un parcours à la fois politique et culturel, quel est le regard que vous portez aujourd'hui, ne serait-ce que sur la politique ? Parce que vous avez été très engagé, vous avez fait partie d'une génération qui a cru à l'utopie. Oui. On connaît aujourd'hui la position du Parti Socialiste. Comment est-ce que vous regardez tout ça ?
L'époque a beaucoup changé. Je crois toujours à l'utopie, mais enfin, c'est vrai qu'en ce moment, elle a du mal, l'utopie. Donc, j'appartiens à une génération qui pensait que le monde pouvait être transformé par l'idéologie. La question que je me pose aujourd'hui, c'est peut-on faire de la politique sans parti politique, sans idéologie ? Moi, j'avoue que ça me pose un problème. Je ne pense pas que la politique soit uniquement la réponse technique à des questions posées par l'organisation de la société, si on n'a pas une idéologie ou un système de valeurs qui permettent d'expliquer le monde. Voilà, donc ça me pose un problème, et j'envisage d'ailleurs de faire un film sur ce sujet, ou en tout cas de réfléchir à ces questions, parce que qu'est-ce que la politique ? C'est pas uniquement un jeu de pouvoir, quoi. Si c'est un jeu de pouvoir, c'est quand même assez desséchant, même si c'est aussi du pouvoir. Mais si c'est un jeu de pouvoir sans réflexion sur l'organisation et sans idéal, c'est quand même assez vain. Donc voilà les questions que je me pose aujourd'hui. Je constate que le Parti Socialiste n'a plus de place et d'espace et sorti des clous. Voilà, qu'il y a un autre système qui s'est mis en place autour d'Emmanuel Macron, dont évidemment, comme tout le monde, on admire le dynamisme et l'énergie, mais sur quelle idéologie ça repose, quels sont les fondements politiques de cette action, je pense que là, il y a encore du travail à faire et que c'est évidemment un travail permanent qu'il faut réinventer à chaque époque, de savoir comment on répond à la question de l'utopie. De l'utopie comme forme d'organisation ou d'idéal de la société. Moi, je suis très partisan, je suis pas du tout dans la croyance que tout n'est que réel politique, etc. Bien sûr, il faut être réaliste, mais il faut un peu d'utopie aussi. C'est ce que j'aimais, par exemple, beaucoup chez Pierre Mauroy, quand j'ai travaillé avec lui, ou chez d'autres amis politiques que j'ai eus. Mais je pense que notre époque manque de cette dimension. Ça reviendra, parce que je pense pas qu'on puisse organiser la société sans cela. Il y a une phrase, alors je réponds peut-être à votre question par une citation que j'aime beaucoup, que j'ai souvent citée et qui reste toujours d'actualité pour moi. C'est une phrase de Lorca, Federico Garcia Lorca, le poète espagnol assassiné par les franquistes. « Tous les jours, quand je vois l'état du monde, j'ai envie de me dire « à quoi bon ?» Et puis je me lève et je dis « je proteste, je proteste, je proteste. »
Jérôme Clément, vous me l'avez dit tout à l'heure, vous avez écrit 10 livres, vous trouvez que c'est peu. Est-ce que vous avez de nouvelles ou d'autres envies d'écriture?
Oui, bien sûr. Oui. Alors là, je vois le temps passer, comme tout le monde, et il y a en fait... on a une réflexion intéressante sur l'action et la réflexion. Moi, je me dis que sur l'action, j'ai beaucoup donné et qu'il serait peut-être le temps d'écrire plus. Et écrire, c'est aussi agir, hein, parfois. J'ai de plus en plus besoin d'écrire que par le passé. Donc, j'ai plusieurs livres en tête. J'ai pas un projet aujourd'hui très précis. Si, j'ai un petit livre qui va sortir en avril, « Bref, histoire de la culture », qui est une série d'émissions que j'ai faites sur France Culture l'été dernier et qui va être en librairie chez Grasset le 11 avril, où j'ai rajouté une préface. Mais j'ai envie de réfléchir ou d'écrire plus souvent et plus longuement. Pourquoi pas un roman? Pourquoi pas?
Vous n'avez jamais abordé la fiction?
Oui, enfin un peu. C'est-à-dire que plus tard, tu comprendras, c'était un récit familial, mais c'était assez romanesque. Mais j'ai peut-être envie de me lancer dans le roman. J'ai d'autres projets aussi qui sont assez personnels, mais je ne peux pas en parler pour l'instant, pas les dévoiler pour l'instant. Mais en tout cas, l'écriture fait certainement partie de mes projets, étant débarrassé pour l'instant de fonctions institutionnelles. Je vais avoir plus de temps pour ça, et je m'en réjouis beaucoup.
Merci beaucoup, Jérôme Clément.
Merci à vous.
Cette rencontre de Zoé Sfez avec Jérôme Clément. À voix nue, réalisation Olivier Guérin, prise de son Yvan Turc, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr. Thank you.